Bonjour et bienvenue sur le podcast Insensé. Ici, Kelly Méran. Insensé, c'est le podcast en quête de sens. J'y interview de belles âmes qui alignent leurs valeurs, leurs rêves et leurs croyances avec leurs projets de vie. Et ça fait sens. Insensé, c'est aussi un podcast indépendant qui a besoin de vous. Pour le faire vivre, je vous invite à ajouter 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Ça m'aide énormément. J'en profite pour remercier Manon TBZ. Elle écrit le commentaire suivant. Une lutte contre l'insensé. J'aime beaucoup ce podcast qui remet en question les préceptes insensés de notre temps, en particulier dans le monde du travail. À chaque écoute, ma conviction de mettre mon énergie au service d'une cause et d'un travail sensé se galvanise. Merci Manon. Merci infiniment, c'est la raison d'être du podcast Insensé.
Voici comment l'histoire a commencé.
Je crois que ce surmenage nous guette tous.
Ah ben alors ?
La vie moderne étant ce qu'elle est.
Vous bossez.
What's your purpose? What's your cause? What's your belief?
C'est du bon pain.
Craquer au bureau.
Bosh.
Réfléchissez.
Décollez.
La vie a-t-elle un sens?
Qui
suis-je?
Il est complètement fou ce mec.
À demain.
Aujourd'hui, je reçois Anne Cazobon. À la voix douce et énergisante que vous avez peut-être entendue ces 20 dernières années au micro de Europe 1, Radio France ou RTBF, ou en tant que réalisatrice de documentaires pour les antennes telles que France 5, France 3 ou encore W9. Spécialisée dans le développement personnel, Anne se dit coach en développement perpétuel. Elle accompagne celles et ceux qui cherchent leur voix, V-O-I-E, ainsi que tous ceux qui cherchent à faire entendre leur voix, V-O-I-X. Elle écrit aujourd'hui pour les revues Psychologie Positive ou encore Happiness. Elle anime des constellations familiales, des ateliers pour libérer sa créativité ou encore des retraites chamaniques. On tente de résumer ses casquettes ici. Coach professionnel, auteur, journaliste, animatrice, conférencière, mais elle est aussi peintre, elle fait de la poésie de rue et pratique le chamanisme. Ma première rencontre avec Anne se passe chez Wake Up, l'école de développement personnel par Anaïs Raoux et Sébastien Sor, où elle anime un atelier qui résonne encore en moi aujourd'hui. On va en parler. Elle prend la parole à TEDx Limoges, le titre de sa conférence « Faire de nos traumas nos alliés ». Nous serions tous détraumatisés, nous avons tous une blessure due à un impact. Ces traces durables peuvent devenir nos alliés si seulement on en prend conscience et on les accepte. Ça me parle. Et vous ? Anne est pétillante, son énergie est communicative, sa présence est surprenante, ses projets sont remplis d'amour et méritent d'être diffusés au plus grand nombre. C'est le premier épisode que j'ai enregistré pendant ce confinement. La quête de sens semble d'autant plus importante ces jours-ci. Je vous invite à découvrir le personnage. Anne, bienvenue sur le podcast Insensé. Nous avons une organisation de maître pour enregistrer ce podcast à distance, en plein milieu de ce confinement. Où es-tu pendant ce confinement et comment tu te sens aujourd'hui ?
Alors moi, je suis dans mon appartement dans le 15e arrondissement à Paris. Je suis au milieu de mon salon dont le sol est jonché de textes, d'histoires venues d'ici, d'ailleurs, sorties de ma clé USB, de mon imprimante. J'ai à peu près 15 mugs de thé qui traînent partout autour de moi. J'entame ma 4e semaine de confinement. Et je dois dire que, franchement, tout ceci se passe plutôt très bien. Je suis gâtée par la vie parce que j'ai un appartement dans lequel je me sens bien. Un rythme qui ne change pas trop de mon rythme normal et j'ai un petit peu de lumière par ma fenêtre, même si je rêve la nuit de chevaucher mon vélo pour aller me faire des bains de forêt dans le bois de Vincennes.
Ça va arriver bientôt, j'espère. On croise les doigts. Est-ce qu'on peut commencer par découvrir ton histoire et si possible en nous mettant en lumière tes chemins de traverse?
Oui. Les itinéraires bis, moi j'aime bien les appeler comme ça.
Exactement.
Je dirais que tout s'articule autour du silence, des mots, de la voix, de ce qui est dit, de ce qui ne l'est pas. C'est vraiment le squelette, la colonne vertébrale de tout mon chemin, et mes chemins, je dirais. Moi j'ai vraiment commencé par... très tôt, me demander ce que les adultes disaient, ne disaient pas, pourquoi ils disaient des choses, pourquoi ils ne disaient pas la vérité, pourquoi on ne pouvait pas tout dire, pourquoi quand on était enfant, on ne pouvait pas tout entendre. J'ai beaucoup joué à me boucher les oreilles, à imaginer ce que c'était que la perte d'un sens, à enquêter déjà, je crois. Il y avait déjà des points d'interrogation partout dans mon arbre, au-dessus de ma tête, dans mon arbre généalogique, dans des questions que je posais où je trouvais que je n'avais pas des réponses très sincères. Et je pense que c'est pour ça que derrière, très vite, je suis allée poser des questions et que je suis devenue journaliste, en fait. Avant ça, j'ai fait un détour par la langue des signes parce que vraiment, il y avait ce pont que j'avais très envie d'être entre ceux qui sont entendus, ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont ce terrain d'expression qu'est la voix et ceux qui sont nés sans, ceux qui ont eu une méningite à la naissance et qui sont devenus sourds, ceux qui sont devenus, ou ceux qui sont nés sourds d'ailleurs. Et j'ai commencé à apprendre la langue des signes à l'âge de 14 ans. J'ai vraiment eu tout un premier pan de ma vie entre 15 et 22, 23 ans, où j'ai appris la langue des signes française, puis la langue des signes québécoise, et puis la langue des signes américaine. Donc ça a été vraiment, à l'époque, c'était les tout débuts d'Internet, donc il n'y avait pas encore même les MMS, les vidéos. Moi, j'ai appris la langue des signes dans un dictionnaire de langue des signes dessinée, où il y avait des espèces de petites BD, de petits storyboards, en fait, où il y avait un homme tronc ou une femme tronc qui faisait un geste, un signe, où il y avait une flèche qui montrait comment il fallait faire jeudi, ou des couleurs, ou des noms de métiers. Et donc, j'ai acheté les uns après les autres ces dictionnaires, j'ai payé mes stages les uns après les autres, au gré des vacances scolaires, pour apprendre davantage la langue des signes, et puis je suis devenue bilingue en langue des signes.
Qu'est-ce qui t'a amené à explorer la langue des signes ?
Je crois qu'il y avait vraiment quelque chose, et c'est encore ce chemin-là que je continue d'explorer, des parts de moi auxquelles j'étais profondément sourde, des parts de moi totalement inconscientes, ou de cet endroit-là où cette petite voix, on parle aujourd'hui de la petite voix qu'on peut appeler l'intuition, qu'on peut appeler l'être profond, qu'on peut appeler ce chemin de vie auquel on est appelé les uns et les autres et qui n'est propre qu'à chacun. Et je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, il y avait tous ces questionnements, quelque part cette voix qui me disait « mais tu as la solution en toi » et que je ne me résolvais pas à entendre. Et j'ai préféré prendre ce chemin beaucoup plus escarpé, beaucoup plus sinueux, qui était celui d'aller chercher à l'extérieur de moi, c'est-à-dire donc d'aller être interprète pour d'autres que d'être ma propre interprète. Et je trouve qu'on fait souvent, j'ai souvent fait ce grand détour plutôt que de prendre le petit itinéraire bis beaucoup plus simple pour moi. Je me suis beaucoup perdue dans des champs de coton et des champs de coquelicots à aller explorer d'autres terrains de jeu pour éclairer davantage cette boule à facettes géante que je suis et que nous sommes tous.
Et est-ce que c'est en te perdant que tu as décidé ensuite d'être journaliste ?
Alors, je dirais que journaliste, c'était vraiment... Ça me permettait de me rapprocher du micro. En fait, au début, moi, ce qui m'intéressait, quand j'ai commencé à devenir journaliste, c'était de faire striptease. Moi, j'adorais striptease sur France 3, cette magnifique série belge de documentaires no comment, comme on dit, sans commentaire. Et au début, moi, c'est vraiment quand j'ai fait ce troisième cycle en journalisme à Nantes, je rêvais de ça, de prendre ma caméra tous les week-ends. J'allais filmer les glaneurs et les glaneuses à la sortie des marchés, les gens au Resto du Cœur, les SDF. J'avais un truc un peu journalisme militant en moi, très journalisme social aussi, le monde de la santé, les gens dans la rue. Et j'avais vraiment très envie d'aller juste laisser parler les images. Pour moi, ce qui était important, c'était les images parlantes. Ça servait à rien de venir avec sa grosse voix de journaliste dire « et voilà, il galère, vous le voyez bien ». Je trouvais ça nul. J'avais vraiment envie que le montage soit subtil, que mes angles, que mes images soient belles, et surtout vraiment de laisser parler les personnes que j'interviewais. Et puis, on a eu un prof de radio qui est venu, ça marchait par semestre, et un monsieur qui s'appelle Claude Brouillot, qui est un journaliste émérite de Radio France, et qui nous a fait passer derrière un micro. et pour chacun dire une brève. On avait eu une petite demi-heure pour écrire une brève. Et je me souviens qu'il m'avait dit, bon, alors toi, tu le sais pas encore, mais t'es faite pour le micro, pour la radio, t'es faite pour raconter des histoires. Tais-toi, écoute-moi, arrête, lâche l'ego, ça va être ça ton truc. Et c'est vrai que de plus en plus, ensuite, pendant toutes mes années de journalisme, ça a été un peu ça. Ça a été se rapprocher davantage du micro, jusqu'à raconter un peu les infos, donc à faire les flash infos. Et puis, de plus en plus, oser embrasser un regard davantage d'auteur et un point de vue de plus en plus ancré, incarné, jusqu'à faire des émissions de santé, puis de développement personnel, puis profondément dire qui je suis, raconter mes expériences dans un micro. Donc en fait, le micro m'a permis de me rapprocher davantage de cette sous-partie de moi qui ne demandait qu'une chose, c'était de s'exprimer.
Et dans ces différentes expériences, quel était le plus grand risque que tu as pris ?
Le plus grand risque, je dirais que c'est vraiment le chemin de développement personnel et de connaissance de soi. Parce que c'est un chemin dans lequel on laisse des gens sur le bas-côté de la route, dans lequel on est laissé par des gens sur le bas-côté de la route, dans lequel je choisis de me choisir, je choisis d'être celle dont j'ai toujours eu besoin, je choisis d'être celle qui ne se lâche plus la main, quitte à perdre, quitte à réduire mon cercle, quitte à faire tomber les masques, quitte à retraverser des marécages boueux, quitte à regarder en face une enfance, quitte à regarder un schéma familial, des phrases posées sur soi, des choix que j'ai faits aussi. Regarder aujourd'hui en face une énergie que j'ai mise au service peut-être parfois du ministère de la Défense, de l'armée, d'endroits où j'aurais voulu dire certaines choses et où je me suis laissée museler, et je reprends ma responsabilité quand je le dis, me dire parfois que peut-être j'ai perdu un peu de temps, et puis me ressaisir en me disant non, en fait, ce temps-là, il était nécessaire à la compréhension de ce que tu muselais en toi, et donc que tu laissais museler par l'extérieur. Donc, je crois que c'est pour moi, c'est vraiment le plus grand risque de tous, c'est de choisir profondément d'être qui je suis et d'embrasser pleinement cette part-là.
Et s'il y avait quelque chose que tu aurais aimé dire, que tu peux dire maintenant ?
Que je suis mon propre bourreau, que je suis mon propre tyran, que je suis mon terroriste intérieur, que je suis ma victime intérieure et que je suis ma Wonder Woman intérieure qui peut venir me sauver. Mais que je crois que j'ai perdu, que je peux perdre et que l'on peut perdre peut-être beaucoup de temps en allant chercher toutes ces solutions à l'extérieur. C'est vraiment cet endroit-là que je regarde en face aujourd'hui, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup de bienveillance aussi pour ces parties de moi qu'on luttait, qui étaient des petites guerrières intérieures. Moi, je me souviens, quand je travaillais pour le journal de la Défense, ils m'appelaient la petite lieutenant. Parce que j'avais un peu il y avait quelque chose de, j'étais très féminine, etc. Mais j'avais comme un treillis militaire par-dessus ou par-dessous tout ça. Et je vois ces endroits-là où je me suis malmenée. Donc de reconnaître pleinement toutes ces parties-là de moi, c'est pas très reluisant et à la fois, mon Dieu, ça fait gagner du temps.
Je vais rebondir un petit peu plus tard sur l'intérieur, là où on peut trouver des réponses. Avant ça, la voix donc, qui a fait partie de ton parcours un peu depuis toujours, toi qui l'as travaillée, qu'est-ce que dit notre voix de nous ?
Alors, il y avait quelqu'un qui disait que la voix, c'est le reflet de l'âme. La voix, c'est le chant aussi. Moi, j'ai fait pas mal de chants quand j'étais plus jeune. J'ai chanté dans des chorales. J'avais fait de la comédie musicale, je me souviens, au collège. Et j'aimais bien... Il y avait quelqu'un qui disait que chanter dans des églises, c'était prier deux fois. Et je trouvais ça magnifique. C'est marrant parce que très jeune, en fait, on m'a dit, c'est marrant, t'as une voix quand même particulière. Quand tu parles, on t'écoute. T'as vraiment une voix particulière. Il y a toujours eu ce truc-là, un peu de t'as une voix particulière, sauf que moi je l'assumais pas. Moi j'étais vraiment une petite rondelette et surtout je piquais des fards monumentaux. J'étais rouge écarlate. J'étais vraiment la petite fille tomate, rouge tomate. Donc j'avais une voix qui portait, j'avais des idées, etc. Mais en revanche, le fait d'être vue, d'être reconnue, d'aller réciter sa poésie devant tout le monde, même si je sentais même très jeune que j'avais une voix, j'aimais bien ça, être écoutée, être entendue, mais je piquais des fards et j'avais des plaques rouges sur le visage, j'avais des boutons, beaucoup à l'adolescence aussi. Enfin, il y avait un truc de quelque chose comme une lutte intérieure, en fait, de mon corps. Il y avait une partie de moi qui avait hyper envie de ça et une partie qui luttait pleinement, qui disait non, non, ne me regardez pas trop quand même, en fait, je suis un peu gênée de tout ça. Et donc, la voix, il y a... Moi, c'est marrant parce que la voix, il y a eu... moi, je suis née dans une famille catholique. J'ai eu une enfance vraiment... on allait à la messe, j'allais au cathé, à l'aumônerie. Et donc, ben, il y avait le... Est-ce que tu veux aller dire la première lecture à la messe? Et ça a commencé par ça, en fait, le micro. Ça a commencé par... Est-ce que tu veux bien faire la première lecture? Je sais pas, je devais avoir 13-14 ans. Et donc, ben, de monter les quelques marches dans le cœur de l'église, de tapoter sur le micro pour voir si ça marchait bien et de dire ce texte-là en scandant, en respirant, en ménageant ses silences. C'était une prise de parole. Alors, c'était pas la mienne. C'était évidemment, je sais pas si je mesurais bien ce que je disais d'ailleurs, si j'y croyais ou pas. C'était plutôt, est-ce que mes copains me voient? Est-ce que je vais pas bafouiller? Est-ce que j'ai réussi à bien dire, à bien faire? Parce qu'on est plein d'injonctions à cet âge-là. On a un soi parfait qui est hyper puissant, qui nous pousse. On a un fait vite qui nous dit vite, vite, il faut terminer ça. Ouais, la voix, ça a été au début, ça a été mettre cette voix au service des autres. Et l'interprétariat en langue des signes, c'était exactement la même chose, en fait. Même quand je mettais des mots sur la langue des signes d'un sourd, sur la colère d'un sourd dans une usine Peugeot, aux Ulysses, où je traduisais un sourd qui était dans sa réunion annuelle, dans son entretien annuel avec son patron et qui profitait de ma venue en tant qu'interprète pour venir dire « c'est pas possible, il y a 6 mois, Michel s'est foutu de ma gueule à la machine à café, Josiane, il y a 3 semaines, j'ai vu qu'elle me toisait dans le couloir, je sens qu'elle m'en veut pour quelque chose, mais je comprends pas bien pourquoi. » Et en fait, moi, être le réceptacle de cette colère-là et devoir mettre des mots dessus et avoir le regard du patron de ce sourd-là qui me regarde. Il y avait quelque chose de l'ordre de la confusion, en fait. D'être la voix des autres, d'être la voix des sans-voix. C'est aussi beaucoup venu me chercher en journalisme, où j'ai été la voix du dernier rang, où j'étais la voix du dernier rang des manifestations. J'ai promené mon micro dans les laveries. J'avais fait toute une série radiophonique qui s'appelait « Jour de lessive », où j'allais interviewer les gens qu'on n'entend jamais. Les gens dont on se fiche, dont on se fout, ceux qui vont laver leur linge sale dans ces espaces-là. Donc il y a eu beaucoup d'abord d'être le réceptacle de ces voix-là, d'être celle qui collecte la parole et qui, parce qu'on lui file un petit micro un peu plus écouté, peut aller la faire entendre. Sauf qu'en fait, en travaillant sur soi, un peu plus profond, un peu plus loin ensuite, j'ai compris... Et j'ai vu que c'était des sous-parties de moi, évidemment, que j'étais allée récolter à droite à gauche et que c'était des petites filles intérieures en moi qui ne demandaient qu'une chose, c'est qu'elles aussi, on vienne leur dire « Et toi, qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu veux me raconter? À quel endroit t'es triste? À quel endroit t'as pas été écoutée? C'est quoi ton combat ?»
Est-ce que pendant ces moments-là, tu étais en silence?
Très peu. Alors moi, il faut savoir que dès que je me retrouvais, et pourtant je suis l'aînée de 4 enfants, donc à 6 dans la famille, c'est une famille dans laquelle tout le monde hurlait à table pour se faire entendre, ou presque. Et dès que j'étais seule chez moi, j'allumais la radio dans la chambre de ma sœur à côté, la radio ou la télé dans le salon, une autre radio dans la cuisine. Je générais une forme de brouhaha, de vacarme, qui m'évitait surtout de venir toucher le silence. Et donc, pendant des années, vraiment, j'étais vraiment la bonne copine qui appelait tout le monde pour proposer un café, une soirée, un ciné, qui avait très, très peur de se retrouver seule dans le silence, parce que, mon Dieu, qu'est-ce qui peut surgir du silence? Qu'est-ce qui peut venir me dire ce silence-là et qu'est-ce qui peut venir me raconter? Et je pense que j'avais petite, peut-être dans des états de silence était poreuse à d'autres formes de voix, d'autres formes d'intuition, d'autres formes de tristesse, de chagrin que j'ai très vite muselé et très vite étouffé en me disant que j'allais vivre à l'extérieur, une vie joviale, une vie enthousiaste, mais surtout pour ne pas écouter ce qui se passait à l'intérieur.
Et est-ce que tu penses que le silence est ce qui nous met mal à l'aise justement parce qu'il nous oblige entre guillemets à faire face à ça?
En tout cas, moi j'ai choisi, tu vois, là, en choisissant la radio, en radio on a ce qu'on appelle la bande secours. C'est-à-dire qu'au bout de 10 secondes, c'est selon les radios, mais au bout de 10 secondes de blanc, de silence, donc tu vois, quand tu fais une interview de quelqu'un, si la personne choisit de ménager son silence pendant déjà 5-6 secondes, ce qui est énorme, c'est abyssal en radio. Et donc parfois l'intervieweur d'ailleurs flippe un peu de se dire « Mon Dieu, il ne faut pas que la bande de secours parte !» Et au bout de 10 secondes, il y a une bande de secours qui part. Si jamais il y a un pain technique, s'il y a un bug dans l'informatique ou quoi que ce soit, il y a une bande de secours. Et je crois que, je me souviens, il y avait une des radios dans laquelle j'avais travaillé, c'était « Wake me up before !» Et donc il y avait le « Chudapop !» Tu vois, de Wham qui partait « Chudapop !» Et donc, on savait très bien que ce morceau-là passait, c'est qu'il y avait vraiment il y avait un gros problème technique et qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, de choisir un espace de radio dans lequel, justement, le silence n'est pas toléré, où il est vaguement accepté, mais pas trop longtemps. Hein, quand même, il faut mesure et raison garder. Déjà, j'avais choisi cet endroit-là où c'était pas encore tout à fait toléré. Derrière, en allant un peu plus dans du documentaire, dans des espaces où il peut y avoir du montage, on peut être dans du travail au long cours, où on n'est pas dans de l'immédiateté, il y a une manif cet après-midi, pour ce soir, il faut que tu aies fait un 3 minutes, ou tu vois, d'aller sur plutôt des longs entretiens. Le podcast aujourd'hui aussi permet ça, tu vois, où on peut vraiment prendre le temps de discuter, de se déposer, de se laisser traverser par ce qui est là. Et tu vois, là, c'est marrant, on se parle, on se voit pas. On est avec notre installation à la MacGyver. Moi, je regarde par la fenêtre ce monsieur qui est sur son balcon, où je me dis, il a de la chance, lui, il a le soleil sur son balcon l'après-midi. On se parle, on se voit pas physiquement, et où ces semaines de confinement m'amènent à davantage plonger dans le silence aussi. C'est intéressant.
J'apprécie de l'explorer, en tout cas, le silence.
Comment tu l'explores, toi, d'ailleurs, le silence, toi ?
Alors, j'ai la chance d'être, pendant ce confinement, en plein milieu de la nature. Je suis dans les Pyrénées-Orientales, et en fait, le silence, c'est plutôt le chant des oiseaux. Et je regarde les bourgeons s'ouvrir en pleine période de printemps. Et je crois que ça, c'est un peu une forme de silence pour moi, qui a l'habitude de remplir mon calendrier heure par heure, minute par minute, de ne pas avoir une soirée de libre avec une vie parisienne bien remplie, très active. Et là, je trouve ça hyper énergisant et je laisse beaucoup de place à des pensées et à des réflexions en cette période de confinement qui pose plein de questions sur l'après, mais qui me permet aussi d'apprécier l'incertitude et de m'ancrer dans le moment présent, en fait. Il me sert à ça, en ce moment, le silence.
Et c'est vrai que ces bourgeons, souvent, ça me fait penser, c'est vrai que souvent, on voit ces vidéos en accéléré de l'éclosion d'une fleur. Et c'est vrai que de la regarder dans sa propre temporalité, de respecter sa temporalité, c'est chouette aussi.
Ouais, complètement. Complètement. Et c'est magnifique parce que, donc, on est arrivé ici il y a 3 semaines. Et tout s'ouvre en l'espace de 3 semaines, ce qui me paraît pas très long en fin de compte. Donc voilà à quoi ressemble une forme de silence aujourd'hui pour moi. Anne, notre rencontre s'est faite à l'école Wake Up. J'ai participé à un atelier que tu animais qui consistait méthodiquement à arracher des bouts de papier, des bouts de magazine, pardon, des images ou des textes qui allaient nous parler sur un fond sonore de musique classique. Et l'objet, ou en tout cas la finalité, était de créer un collage, une genre de composition artistique. Et j'aimerais que tu nous racontes l'intérêt de cet atelier et comment tu as réussi à le développer.
En fait, dans tout ce travail d'introspection intérieure, de connaissance de soi, en descendant en spirale à l'intérieur de moi, comme si je descendais dans un puits, tu vois, comme si je descendais au bout d'une poulie dans un seau. Il y a plein d'endroits où j'ai plus les codes, j'ai plus la langue, j'ai plus... tu vois, c'est comme si tu descends vraiment dans des strates de plus en plus profondes et où j'avais plus les mots, j'avais plus les éléments, j'étais traversée par des émotions, par des images, par des flashs parfois. Et j'ai plus su comment prendre le morceau, je dirais. Et à cet endroit-là, moi qui suis une amoureuse des mots, qui ai toujours baigné là-dedans, dans le français, la radio, le journalisme, tu vois, faut écrire, faut trouver et poser les bonnes questions, faire le montage des phrases, etc. Et très vite à cet endroit-là, j'ai découvert que le pictural, au sens global, donc vraiment l'image, la peinture, le dessin, les photos, le symbole, la pâte à modeler, peu importe, mais autre chose que les mots, et donc le cérébral, venait et pouvait venir être langue, être langage, et me permettre d'exprimer quelque chose que je n'arrivais pas à dire. Et c'est pour ça que moi, au-delà des mots, j'aime vraiment parler de l'expression de soi. Et même au-delà de la créativité, je préfère parler d'expression créative, en fait. Parce qu'on peut vraiment dire de plein de manières différentes. Et... dans ces pratiques-là, surtout dans aujourd'hui, le développement personnel est un peu partout, le coaching, les changements de vie, etc. On vous fait passer plein de tests de je suis quoi, je suis quel profil, quel métier est fait pour vous, est-ce que c'est le bon moment pour quitter votre boulot ou quoi ou qu'est-ce. Et parfois, on se raconte une histoire depuis hyper longtemps. On se raconte surtout toutes les loyautés familiales, on se raconte... ce qu'on a bien voulu se raconter et l'histoire qui nous plaît bien, et c'est pour ça qu'on va la raconter peut-être à quelques thérapeutes ou quelques coachs en ne changeant jamais de disque, et parfois de prendre un autre chemin qui serait le chemin du découpage, collage, peut-être que l'inconscient va se saisir de cette magnifique opportunité pour venir nous raconter quelque chose de nouveau, pour venir nous apporter un élément nouveau à notre compréhension de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'en fait, je vous propose dans cet atelier-là de rentrer dans une forme de méditation active. Moi, j'ai jamais été très fan de la méditation posée, assise en tailleur. Je trouve que je m'endors un peu, etc. J'aime davantage la méditation soufie, qui est de la danse derviche, qui peut être de la peinture, du dessin, la marche méditative, la marche afghane. Voilà, je trouve que faire la vaisselle en méditant, ça m'intéresse davantage. Donc, j'aime beaucoup les méditations en mouvement. Et cette proposition qui est de tourner les pages d'un magazine avec de l'opéra hyper fort qui joue permet d'entrer dans... je rentre dans l'image, dans les couleurs, dans les formes, dans la texture de ce papier glacé qui se froisse et qui tourne entre mes mains. Et puis peut-être, tiens, je ne sais pas pourquoi, je me laisse appeler par cette image-là que je vais déchirer, que je vais poser dans un coin. Et au fur et à mesure, je vais rentrer davantage dans... cette sélection que mon inconscient va faire pour venir mettre à la loupe, mettre en exergue des éléments qui pourraient peut-être venir m'éclairer sur l'endroit où je suis ici et maintenant et sur ce que mon âme a besoin de me faire comprendre. Et donc dans ce collage, qui n'est certainement pas un tableau de vision, puisqu'un tableau de vision c'est fait en conscience, là c'est fait en inconscience, c'est d'ailleurs un selfie inconscient, ce que je vous propose de faire, et donc de voir quelles sont les illustrations, les images que viendraient vous envoyer, les bouteilles à la mer que vous enverrait votre inconscient. Ce sont les prémices, c'est un peu comme une constellation familiale en 2D, en deux dimensions, puisque c'est sur une surface plane, on termine avec un collage. Et donc, pour moi, c'est comme une carte au trésor. C'est facile pour moi de lire les petits pointillés dorés qui se passent à l'intérieur, le chemin un peu que votre inconscient cherche à vous faire prendre dans ces collages-là. Donc c'est histoire de sortir un peu des sentiers battus et surtout pour des adultes, jeunes adultes qui cherchent à se réorienter ou à peut-être se remettre sur leur propre chemin ou donner davantage de sens à ce qu'ils souhaitent offrir comme contribution au monde, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore vu d'eux-mêmes.
C'est exactement ce que ça m'a permis de faire. Et ce que je me demandais aussi, c'est en cette période confinée, est-ce que tu as un exercice que les auditeurs pourraient faire seuls ou à deux chez eux ? J'ai un souvenir sur cet atelier que j'avais beaucoup apprécié, la partie interprétation. Donc il y avait la première phase, donc le collage. Ensuite, on avait écrit des lettres Une lettre avec tout ce dont on veut se débarrasser et une autre avec tout ce qu'on peut accueillir. Maintenant qu'on s'est débarrassé de choses, on a plus de place. Est-ce que tu aurais un exercice assez simple qui ne nécessiterait pas, en tout cas, d'interprétation particulière de quelqu'un ?
Moi, depuis quelques semaines, là, tu vois, je réfléchis à écrire deux lettres de gratitude à mes deux parents. J'ai la chance qu'ils soient encore en vie. Et vraiment, ça m'amène. Moi, j'ai un long chemin avec mes parents d'idolâtrer. Tu vois, je les ai idolâtrés pendant très longtemps, puis de découvertes de plein de choses, puis de luttes, de disputes, de. Enfin voilà, vraiment, on est passé par plein d'étapes. Et aujourd'hui, je crois que je suis en paix profonde avec eux. Après être sortie du je suis victime, je suis aujourd'hui dans une phase d'acceptation, sans renier ce qui s'est passé, les aspects plus ou moins dysfonctionnels de cette famille, puisque toutes les familles sont plus ou moins dysfonctionnelles, d'un regard franc, adulte, et plein d'amour aussi posé sur ce qu'ils sont, ce qu'ils ont été, les parents qu'ils ont été, les grands-parents qu'ils sont aujourd'hui, et donc qui est souvent bien différent d'ailleurs, et ce qu'ils ont fait avec ce qu'ils ont pu. Et je me rends compte aussi aujourd'hui en accompagnant parfois des hommes, des femmes de l'âge de mes parents, à quel point ils ont fait ce qu'ils ont pu et comment ils ont composé avec l'enfant blessé qu'ils ont l'un et l'autre à l'intérieur. Et vraiment, ça fait un petit moment que je réfléchis à ces brouillons de lettres de gratitude. Alors, est-ce que ce seront deux lettres que je leur enverrai? Est-ce que ce seront deux lettres que je leur dirai? Est-ce que ce sera mon cadeau envoyé avant l'été? Je réfléchis à ça. C'est aussi un exercice qu'on peut faire même si l'un ou l'autre n'est plus de ce monde. Je crois que c'est important de quelque manière. Moi, dans les stages que je propose, je propose toujours beaucoup de rituels parce que je trouve que ça permet d'ancrer dans la matière, de couper des liens, de brûler des lettres, de brûler des intentions, d'aller enterrer des choses. Moi, j'ai enterré des haches de guerre avec mon père, par exemple. Un jour, j'avais été chez le roi Merlin à acheter une hache. Je pense que le type s'est dit que j'étais complètement tarée. je suis allée graver des choses sur cette hache et je suis allée dans un champ et j'ai creusé à main nue un trou pour enterrer la hache de guerre avec quelques photos pour vraiment décider d'être en paix avec mon père, en fait, parce que ça me rongeait de l'intérieur. C'était vraiment... ça peut être abyssal, en fait, d'être en colère encore contre ses parents. Je trouve que ce temps de confinement est intéressant pour ça. Et il y a autre chose que je peux proposer. C'est récemment, j'ai discuté avec une amie qui me disait « Mais tu te rends pas compte, Anne ? T'es hyper active, tout ce que tu fais, ça a un but. Dès que tu peins, c'est pour illustrer un bouquin, ou pour faire une expo, ou dès que t'écris, c'est pour que ce soit lu. » Ou voilà, il y a jamais rien que tu fais de manière, tu vois, dans la vacuité en fait, dans quelque chose un peu évanescent comme ça. Et elle me dit, mais est-ce que t'as des loisirs vraiment ? Et alors là, j'ai eu un silence immense. Et je me suis dit, mais elle a raison, en fait. C'est vrai que comme tout, pendant très longtemps, moi, j'ai une croyance qui était je n'aurais pas assez d'une vie pour faire tout ce que j'ai envie de faire. J'ai un truc un peu fait vite, qui me pousse comme ça tout le temps. Et donc, c'est vrai que je ne me repose pas souvent. Et puis, il y avait un truc que ça faisait très longtemps que je voulais apprendre, c'était à faire, de l'art de la table avec des serviettes en papier. De faire des nénuphars en serviettes en papier, des signes en serviettes en papier, voilà. Et je me suis dit que YouTube devait certainement regorger de vidéos, de tutos en tout genre en la matière. Et que, voilà. Et en fait, je me suis dit, ça, c'est un super truc d'apprendre à faire quelque chose qui ne va pas me servir à ramener de l'argent, tu vois, ou à, tu vois, de sortir vraiment de cet objectif-là, d'être vraiment dans quelque chose pour embellir. Tu vois, c'est que des choses pour embellir, en fait. Ça peut être la petite grenouille en origami, ça peut être un petit message que je laisse dans la boîte aux lettres de ma voisine pour lui dire que les petits biscuits qu'elle m'a déposés devant ma porte étaient délicieux. Je peux lui laisser une petite carte de visite dans sa boîte aux lettres, mais je peux aussi lui déposer une petite grenouille en origami en lui mettant « merci pour les biscuits ». Les messages en origami, ça peut être vraiment déposer ensuite. Moi, j'aime bien toute cette poésie urbaine, tu vois. Ça peut être des petits messages déposés ensuite dans les panières de Vélib ou de vélo dans la rue ou déposés sur un rebord de muret. On peut voilà, des choses pour pour rendre plus beau le quotidien.
Et est-ce que cette recherche de la beauté n'est pas un but quand même ?
Oui, c'est un but. Je suis d'accord avec toi. Moi qui viens de classer par couleur mes livres dans ma bibliothèque et de faire un magnifique arc-en-ciel dans ma bibliothèque, je reconnais que ça me, je sais pas, ça me réchauffe l'œil quand je les regarde. Je trouve ça m'amusait de le faire. Ça m'amusait de me replonger dans les livres que j'avais. Ouais, s'entourer de beau quand même. Je crois que c'est quelque chose qui c'est une de mes grandes valeurs. C'est quelque chose qui est important pour moi.
Ça me permet une transition parfaite sur la poésie urbaine. J'ai découvert ton projet Flying Project, donc où tu utilises les bouches d'aération pour propulser des confettis biodégradables. Et j'ai lu ou entendu, en tout cas tu dis que ce projet a pour objectif de transformer la boue en or. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Ouais, moi, j'aime beaucoup l'alchimie. L'alchimie, c'est vraiment ça, transformer le plomb en or, la boue en or. L'origine de ce projet-là, ça vient vraiment du métro, en fait. C'est moi, je donnais des petits mots aux gens dans le métro. J'avais appelé ça les textopolitains. Le métro, c'est un peu le monde souterrain, tu vois. C'est un peu le monde du confinement aussi. C'est un peu le monde des sentiments enfouis. C'est aussi le monde du sas émotionnel. Moi, il y a plein de moments où j'ai pleuré dans le métro parce que c'était le moment où j'étais entre une situation un peu catastrophique professionnelle et puis rentrer chez soi et faire bonne figure et revêtir le masque à nouveau. Donc c'est cet espace-là, je trouve, qui est un espace parfois électrique où les gens s'engueulent, ou au contraire un espace très silencieux où la moindre personne qui parle fort, bah tout de suite on s'en rend compte, c'est le sans domicile fixe qui demande de l'argent et qui parle fort, ou ce sont parfois les touristes qui parlent fort et du coup on les entend, on sait qu'ils ne sont pas d'ici puisqu'ils parlent fort. Donc c'est un peu le monde du silence, c'est un peu le monde du cinéma muet. Et donc à cette époque-là, j'avais envie de distribuer des petits mots aux gens pour rétablir une sorte de communication dans ces espaces de silence. Je les faisais dans le métro, mais c'est à un endroit comme si je les faisais dans les sous-parties de moi qui étaient silencieuses les unes aux autres, qui étaient muettes les unes aux autres. Encore une fois, c'est chercher à l'extérieur des espaces qui sont en fait à l'intérieur. Et puis, au fur et à mesure de cette connaissance de soi, de ces stages de développement personnel, de ce chemin thérapeutique que je poursuivais, c'est comme si je montais, tu vois, je reprenais l'escalier en colimaçon et je remontais un peu davantage. Et puis un jour, je suis remontée jusqu'au niveau de la mer, au niveau zéro, au rez-de-chaussée, je dirais. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait ces grilles d'aération, ces bouches de métro qui soufflaient de manière constante, en fait, en permanence, dans Paris, que c'était comme des poumons qui respiraient dans la ville, dans le bitume. Et moi, j'ai toujours bien aimé de saisir cette occasion d'une poubelle, de faire des bulles autour de sacs de poubelle, de chercher en permanence comment est-ce qu'on pourrait embellir un réverbère. Moi, j'adore la fête des Lumières à Lyon. À Lyon, je me souviens, il y avait une rue entière où le soir de la fête des Lumières, il y avait tout un collectif qui avait mis des abat-jours à tous les lampadaires. J'avais trouvé ça magnifique. Il y avait des vieux abat-jours des années 70 et en deux secondes, ça transformait, ça remettait l'extérieur, ou plutôt l'intérieur à l'extérieur, ce que je trouve d'ailleurs intéressant d'ailleurs en ces périodes de confinement. Voilà, où du coup la rue était à la maison, la rue était à nous, était à tout le monde. La rue était éclairée avec cette douceur qu'il y a sous les abat-jours. C'est pour ça qu'on achète des abat-jours, parce que parfois une ampoule, elle est un peu violente dans sa lumière, et donc on va aller adoucir ça en mettant un abat-jour. Donc voilà, je trouve toute cette réflexion sur l'art, sur le périmètre de l'art, le périmètre artistique, le terrain de jeu, et l'enfant libre qui peut s'exprimer à l'extérieur dans la rue, je trouve ça passionnant. Et donc je me suis mise à jouer avec ces bouches d'aération et à chercher comment faire s'envoler de la manière la plus éco-responsable possible des confettis qui généraient ce qui m'avait beaucoup inspirée, à savoir ces nuées d'étourneaux qu'on appelle les murmurations, qui est un mouvement naturel des étourneaux au moment du coucher de soleil. Vous les avez certainement déjà vus, ce sont ces espèces de formes un peu bizarroïdes comme des essaims d'oiseaux qui prennent des formes parfois géométriques qui changent et voilà, qui sont en fait des formes de survie où en fait, pour eux, pour échapper aux prédateurs, chaque étourneau doit rester très très près de ses semblables pour éviter de se faire croquer par une buse ou un faucon qui rôderait dans les parages. Donc en fait, ils restent en groupe pour ne pas se faire attaquer. Et je trouve que voilà, cette idée du restons groupés, du ensemble, on est bien plus fort que la menace, je trouvais ça très beau. Et puis c'est un projet qui au départ était artistique, qui était joyeux, qui a pris un sens un peu différent au moment des attentats, voilà, où d'un coup ce projet artistique est devenu plus au service du nous, au service des autres et au service d'une forme de transformation urbaine, d'alchimie collective dans la rue, ou comment les uns et les autres, on pouvait ensemble vivre un moment de poésie et libérer tout ce qu'on avait dans le ventre, d'angoisse, de peur. Alors ça a été des libérations de papillons, des envolées de cœur, des pluies d'étoiles. Voilà, j'ai un peu composé différemment avec ce projet artistique que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai une grande tendresse encore aujourd'hui.
C'est hyper touchant, en tout cas, de voir les images. J'ai pas eu la chance de le voir en vrai, mais j'ai découvert les images sur Internet que je partagerai aux auditeurs. C'est quelque chose que tu fais toujours ?
Alors, c'est quelque chose que j'ai arrêté de faire parce que je sens que c'est intéressant. En fait, je sens que les consciences ont évolué. La mienne aussi, sûrement. Même si c'était des confettis entièrement biodégradables, il y a une partie de moi qui est plus tout à fait OK avec le fait d'envoyer ça encore aujourd'hui. Et alors, c'est intéressant parce que là, tu vois, quand j'avais encore une émission de radio sur Europe 1, j'avais lancé un hashtag qui s'appelle « Merci à un inconnu ». Et le jour du début du confinement, j'ai vraiment eu, j'ai entendu pour le coup, alors là, j'ai pas été sourde à cette voix-là du tout, mais j'ai vraiment entendu, cette fois-ci, merci à un inconnu, c'est un compte Instagram. Et donc, c'est mon autre projet, c'est mon nouveau projet artistique, entre guillemets, qui n'est qu'un réceptacle à cet endroit-là. Moi, je fais juste mettre en forme les histoires qu'on m'envoie, mais ça me met en joie, ce projet-là. Vraiment, si vous avez des histoires de merci à un inconnu, n'hésitez pas à venir les raconter. C'est un bonheur de recevoir, mon Dieu, ces tranches d'humanité, ces héros presque ordinaires auxquels les uns les autres viennent tirer leur chapeau. Et je me suis dit, c'était à un endroit, c'était presque l'arroseur arrosé par rapport à ces petits messages que je donnais dans le métro. Finalement, c'est à moi qu'on vient raconter ces histoires-là. Donc c'est comme si je bouclais la boucle aussi.
Magnifique.
Donc c'est chouette, ouais, j'aime bien ce projet-là qui m'accompagne pendant le confinement aussi. C'est chouette.
On va rentrer dans le développement personnel. Je te cite, mais tu l'as déjà mentionné depuis le début de l'interview à plusieurs reprises. Tu dis que plutôt que de trouver les réponses à l'extérieur, le développement personnel nous invite à trouver les réponses à l'intérieur. Ce que je me demandais, c'est d'après toi, quand doit-on se tourner vers le développement personnel ? Est-ce que c'est pour tout le monde ? Dans quelles circonstances est-ce qu'on doit aller toquer à sa porte ?
Alors, moi, c'est vraiment... je crois que tant que tout va bien et que vraiment qu'on est, satisfait de sa vie et qu'on va bien, mais c'est super, en fait. Il n'y a pas de... c'est des médecins de l'âme, les thérapeutes, les coachs, les accompagnants, peu importe comment vous les appelez, c'est des gens qu'on va voir quand on a quelque chose qu'on a identifié qui tourne en rond ou qui tourne pas rond ou qui se répète. Mais avant ça, on peut se dire que tout va bien. Donc c'est parfois l'histoire qu'on se raconte. Moi, on m'avait donné le numéro d'une psy et pendant 3 ans, je me suis raconté l'histoire, même si ça n'allait pas fort du tout à ce moment-là, mais je me suis raconté l'histoire que j'allais m'en sortir toute seule. Donc souvent, c'est l'ego aussi qui se raconte ça. Mais ça voulait dire que je pense que ça n'avait pas ça. Et donc, je dis ça avec des grosses guillemets. Mais la vie ne m'avait pas encore montré à quel point je me faisais grande violence. Et je me faisais beaucoup de mal toute seule en me croyant super forte. Et je vais m'auto-analyser toute seule et je vais me soigner toute seule. Et puis le jour où vraiment, ça a été le point de non-retour, je n'ai plus eu d'autre choix. Mais avant ça, j'étais très présomptueuse de croire que j'allais m'auto-analyser toute seule, que j'allais me soigner toute seule. La thérapie, c'est quand même aller trouver un espace, donc chez une tierce personne, avec une tierce personne, pour aller justement mettre, déposer à l'extérieur, trier ses patates et regarder qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je rends, de quoi, voilà, qu'est-ce qu'est le plomb, la boue, comment je peux la transformer, qu'est-ce que je pleure, qu'est-ce qu'il n'y a rien à pleurer, qu'est-ce qui, voilà, vraiment, je trie tout ça. Je vide mon sac et je regarde dans tout ça qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Mais il faut rien du tout, en fait. Il faut rien du tout. Moi, là-dedans, je c'est l'endroit où juste, si ça va pas fort, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à aller faire. Alors, il y en a, ça va être le sport, d'autres, ça va être la méditation, d'autres, ça va être la danse, d'autres, ça va être... Il y a plein de chemins. Il y a vraiment plein de chemins et moi, j'ai expérimenté plein de chemins.
Tu as beaucoup exploré les traumas aussi. C'était le sujet de ton TED. Donc, le titre « Faire de nos traumas nos alliés », un trauma, c'est quoi exactement et comment est-ce qu'on transforme un trauma en allié ?
En fait, l'idée, c'est qu'on est tous des multi-traumatisés, un peu comme les histoires de famille. Enfin, toute personne qui ne se regarde pas ou qui ne veut pas aller se considérer de cette manière-là, parfois, elle est souvent régie par ces traumas ou ces histoires de famille ou ce transgénérationnel. Donc, l'idée, c'est pas forcément d'aller patauger là-dedans, mais en tout cas de regarder de manière factuelle ce qui est, ce qui a été. L'un de nos plus gros traumas, c'est notre naissance. On le sait, c'est pour ça qu'on l'a tous oublié. Et moi, pour avoir assisté à une cinquantaine de naissances, c'est extrêmement, mon Dieu, traumatisant. Ça a l'air, en tout cas, d'être le premier des combats. Et puis ensuite, on peut, enfin, toute la journée, moi, je regarde les enfants dans la rue, ils tombent de leur vélo, ils se relèvent, ils hurlent, ils ont l'impression qu'ils sont abandonnés parce que maman met 5 minutes à arriver. Et puis, pour l'un, ça va être un méga trauma et pour l'autre, pas du tout. Donc c'est aussi de la manière dont je vis les choses et c'est à cet endroit-là qu'on a tous des ressources extrêmement différentes. Si j'ai en moi le programme que maman veut m'abandonner parce que dans mon arbre généalogique, il y a eu des abandons de bébé et qu'ensuite j'ai été séparée de ma mère à la naissance pour X raisons et placée en couveuse et qu'ensuite elle a été elle-même malade et à l'hôpital et que je me suis à nouveau sentie abandonnée et qu'ensuite... tu vois, ça s'est répété comme ça dans ma vie à plusieurs reprises. Bon, si ce scénario-là, il y a une partie de moi qui l'a acheté, peut-être que je vais le rejouer et le perpétrer, tu vois, dans ma vie, au fur et à mesure. Mais on est tous extrêmement différents par rapport à nos traumas. Il y a les traumas qu'on a vécus, il y a ceux que l'on porte pour d'autres, qui peuvent être donc des traumas transgénérationnels, d'histoire, de nos parents, qui n'ont pas été dits, qui n'ont pas été traversés, et qui sont, parce qu'on a été dans l'utérus de notre mère, qu'on a attrapé au travers, dont on a saisi l'empreinte en séjournant pendant 9 mois dans le ventre de cette mère. Donc on peut être vraiment... pétri de tous ces traumas-là qui font que on est des êtres parfaitement imparfaits.
Et quel est le trauma qui, toi, t'a le plus aidé?
Qui m'a le plus aidé? En fait, ce que je trouve très intéressant dans le trauma, c'est de mesurer à quel point les traumas peuvent venir se matérialiser dans la vie de manière extrêmement différente. Ils viennent souvent nous raconter la même histoire. Je m'explique. Quand on fait de l'EMDR, donc de la Eye Movement Directional Rightness, qui est donc une technique d'hypnose qui permet de faire de la régression et de revenir un peu plus profondément à des endroits un peu traumatisants de sa vie, je peux croire que, par exemple, l'accident de voiture que j'ai eu à 25 ans, où je me réveille dans cet accident de voiture, il y a du sang partout, la personne à côté de moi dans la voiture est inconsciente, et moi je crie au secours et j'ai l'impression que personne ne m'entend et j'ai du sang partout et je hurle et j'ai l'impression que je suis abandonnée de tous. Pour moi, à ce moment-là, je peux me raconter l'histoire que c'est la première fois que je vis un tel trauma, puisque c'est la première fois que j'ai un tel accident de voiture et que je vis ça. Sauf qu'en fait, en EMDR, on se rend compte que cette phrase-là, je crie, j'appelle au secours et j'ai l'impression que personne ne pourra venir à mon secours, peut-être que je l'ai déjà vécu à un autre moment. Peut-être que je l'ai déjà vécu lors d'un harcèlement de rue. trois ans auparavant. Peut-être que je l'ai déjà vécu 6 ans auparavant, lors d'une soirée où, je sais pas quoi, je suis rentrée dans la cuisine et quelqu'un a balancé une blague et s'est fichu de ma tête. Et à ce moment-là, j'aurais voulu hurler et qu'on vienne m'aider et me tirer d'affaire de cette espèce d'un peu d'humiliation publique gratuite. Mais personne n'est venu. Et peut-être que 10 ans auparavant, quand j'ai chuté de mon tricycle et que j'avais le genou en sang et que personne n'est venu, à ce moment-là, là aussi, voilà. Et donc, on se rend compte, en fait, quand on travaille sur nos blessures, que parfois, on a ce scénario-là qui se rejoue et qui, tant qu'on n'a pas regardé très en face et repris responsabilité de l'origine de ce scénario-là, que voilà, la vie va nous resservir cette même soupe dans de la vaisselle un peu différente, je dirais, dans des scénarios un peu différents, mais que, in fine, je vais me sentir de la même manière à chaque fois. Et donc, je dirais que le trauma qui m'aide le plus, c'est mon dernier trauma. C'est celui qui vient de m'arriver. C'est le licenciement peut-être que j'ai vécu comme un grand traumatisme il y a 6 mois. C'est la rupture amoureuse que je traverse hyper douloureusement, qui me fait vivre de l'abandon et qui me propose à nouveau de réfléchir, de regarder qu'est-ce qui vient se rejouer pour moi, qu'est-ce qui fait que ça me fait plonger ou replonger dans mes travers ou dans mes addictions, ou qui fait que je me remets à fumer ou à boire ou à sortir comme pour éviter de penser. Voilà, quel est le dernier événement de ma vie qui me permet de me rappeler à l'élastique tendu qui vient chercher dans le passé ce point que la vie vient me servir dans un nouveau scénario ici et maintenant qui me dit « Ah, et si tu allais travailler ce vieux dossier, ce vieux souvenir, cette vieille mémoire que tu n'as toujours pour l'instant pas nettoyée ?» et qu'on va se charger de venir te matérialiser dans ton quotidien pour que tu te rendes compte à quel point ça vient toujours agir sur toi et te faire réagir. Puisque l'idée, c'est de voir à quel endroit je me mets en réaction par rapport à quelque chose qui est antérieur. Donc le meilleur des traumas, c'est celui qui vient de se passer. C'est peut-être ce confinement qui me permet de regarder, de me voir faire, de me voir agir pendant ce confinement. Est-ce que je grignote comme 15? Est-ce que je fais tout pour ne surtout pas me retrouver devant le projet que je repousse depuis des années? Est-ce que c'est le truc qui fait que déjà que j'avais une addiction à Instagram, alors là on n'est plus à 3 heures par jour mais on est à 8 heures par jour? Qu'est-ce qui fait que je me noie dans des séries télé que j'aurais oubliées dans 6 mois? Qu'est-ce qui fait que je dors, mais que je dors plus que de raison pour surtout ne pas vivre ces journées-là? Voilà, je peux aller regarder, sans juger, je peux aller regarder, tiens, qu'est-ce que ça vient me raconter?
Observer sans juger. Anne, es-tu une chamane?
Alors, je dirais que le chaman, c'est celui qui est un pont entre le ciel et la terre. C'est celui qui se laisse traverser et qui se laisse se secouer par ce qui le traverse. Donc, qui se laisse traverser par l'invisible pour le rendre visible. Et donc, en ce sens, je pratique le chamanisme. J'aime pas dire, tu vois, dire chaman, c'est un peu... c'est comme les gens qui se définissent en disant « je suis journaliste, je suis coach, je suis... » Bon, tu vois, ouais. il faut rentrer dans des cases, j'ai bien conscience de ça, et que, voilà, sinon les gens, surtout quand t'es un peu pluridisciplinaire, un peu multicasquette, ils sont un peu perdus. Il y a souvent cette phrase de « oh, mais toi, on a du mal à te suivre ». Mais l'idée d'ailleurs, ça n'est pas de me suivre en fait, c'est pas ça le projet. Mais à cet endroit-là, dans le rendre visible l'invisible, oui, cette voie du chamanisme est une voie à laquelle j'adhère totalement et que j'emprunte depuis bien plus longtemps que je ne le crois en fait. Et qui est d'ailleurs une voie que j'ai retrouvée, je crois, que j'avais bien connue avant et que je n'ai eu qu'à retrouver, qui est un chemin dont je m'étais détournée par peur, par crainte, et que sur lequel je me suis remise et sur lequel plus je gambade, plus je suis joyeuse dessus, plus c'est simple, fluide et facile pour moi. Donc de par voilà, le chamanisme, on peut être chamane dans sa manière de se laisser inspirer par une histoire, de se laisser inspirer par une toile, par un dessin, de se laisser traverser par ce que les ancêtres disent lors d'une constellation familiale, de se laisser guider par son intuition lors d'une séance de thérapie, lors d'un projet que je mène, de se laisser traverser par le souffle du vent. Moi, j'aime beaucoup l'aspect dimension naturelle, quatre éléments, cinq éléments, les ancêtres, grand-mère feuillage dans Pocahontas, tu vois. Moi, j'aime beaucoup ça, le souffle du vent dans les arbres, c'est ça qui me manque follement ici dans ce confinement, tu vois, de m'allonger sous un sol pleureur et d'entendre le bruit du vent dans les arbres. Ça, c'est quand même quelque chose. C'est comme s'il y avait une part de moi qui entendait ce que ça disait, tout ça. Tu vois, quand entendais cette langue-là que je ne m'explique pas. Moins je me pose de questions, moins je mentalise ça, moins j'ai peur de ça, et plus je l'embrasse et j'accepte pleinement ce que ça vient me murmurer, me chuchoter à l'oreille, plus j'ouvre grand mes oreilles à ce que ça vient me dire, plus je suis poreuse, plus je sens que je peux œuvrer, et plus c'est joyeux, en fait. Moins j'ai envie de raconter les traumas, justement, plus j'ai envie d'aller raconter les pépites derrière les traumas.
Comment, tu parlais du visible et de l'invisible tout à l'heure. Comment est-ce que le contact avec l'invisible nourrit le visible?
Parce qu'en fait, le visible, c'est juste une part. Le visible, c'est juste une part, et c'est une toute petite part du monde, de notre société, de qui l'on est aussi. On est des êtres incarnés, évidemment, mais on est des êtres spirituels incarnés. Mais ce que je suis, quand on commence à s'ouvrir un peu à l'énergétique, aux soins énergétiques, mais même à l'ostéopathie, quand je vais voir mon ostéopathe, je vois bien qu'il ne reste pas juste sur mon enveloppe charnelle. Il est déjà un peu autour de ça. Je vois bien qu'il y a des gens auprès desquels j'ai envie d'aller, vers lesquels j'ai envie d'aller, dont il émane quelque chose. Et des gens vers lesquels je ne suis pas du tout appelée, desquels même je me sens presque repoussée. Donc je vois bien qu'il y a bien plus grand que juste la matière, que juste le corps physique, en fait. Je vois bien que quand je rêve, ça n'est pas mon corps qui rêve. Je vois bien que c'est là aussi. Donc on est bien plus grand que ce que l'on croit. Donc l'invisible nous accompagne en permanence. Et quand on est Internet, on est sur de l'invisible. La radio, c'est de l'invisible. On est sur ces ondes-là, on est sur énergie, on est sur les énergies, on est sur la répétition dans l'énergie. Pourquoi il y a des gens qui se font toujours agresser et d'autres jamais? Pourquoi il y a des gens qui se laissent traverser et d'autres pas? Pourquoi est-ce que parfois je me cogne au mur où j'ai le petit orteil qui se coince? Et parce qu'en fait, c'est comme si un peu j'étais presque sortie de mon corps et que mon corps se rappelait à moi. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui font du sport, et parce que le sport est très bon quand on reste trop dans sa tête, parce que le corps nous rappelle et nous ramène à ce qu'il est, c'est-à-dire un corps qui parfois est en souffrance. C'est pour ça que la marche est géniale, parce que quand on marche et quand on part un peu dans ses pensées, parfois on est rappelé à « j'ai une ampoule dans ma chaussure gauche et il va falloir que je m'arrête et que j'enlève ma chaussette et que j'aère mon pied ». Et que ça nous ramène à ce que l'on est. Mais on ne peut ne se concentrer que sur la matière, c'est faire abstraction d'une immense partie du monde et de ce que l'on est. Et donc c'est comme ce conscient-inconscient. Le conscient, on est très peu conscient. Et si je fais abstraction de tout l'inconscient qui me régit, qui fait que je tombe amoureux de cette personne, qui fait que je suis appelée par ce métier-là, qui fait que je suis appelée par ce lieu de vie-là, qui font que toutes ces forces-là poussent et font que je vais avoir cet appartement-là, ou au contraire que la vente ne va pas se faire à la dernière minute, ou que je vais choisir... ou que finalement je vais me faire virer de cette boîte-là, et peut-être que derrière c'est un magnifique cadeau, mais pour l'instant je ne le vois pas encore parce que je suis dedans et que ça m'énerve et que je suis en colère. Mais le jour où je commence à voir l'invisible derrière le haut de l'iceberg, c'est-à-dire un licenciement, un acte de vente, un coup de foudre, une rupture amoureuse, une chute, une maladie, ou quoi au caisse, mais si derrière je commence à ouvrir les yeux sur ce que ça vient me dire, alors là, la vie, je crois, en tout cas, moi, c'est mon expérience, elle devient un magnifique cluedo, un magnifique jeu de piste. Et là, les ficelles à tirer, elles sont magnifiques. Elles sont passionnantes.
As-tu déjà fait le lien entre ce qu'apporte ta pratique chamanique à ta pratique journalistique ?
Alors moi, je ne me définis plus aujourd'hui comme journaliste. Je crois que j'ai tourné la page de ça. J'ai réalisé il y a quelques années que si j'avais été journaliste, c'était avant tout pour être journaliste dans mon arbre généalogique et puis journaliste en moi, en fait. D'aller mener l'enquête sur ces sous-parties de moi, d'ailleurs. Donc d'aller enquêter auprès de l'artiste en moi qui, justement, n'avait pas les mots mais qui arrivait à peindre ce qu'elle essayait de dire. D'aller enquêter sur toutes ces facettes plurielles, en fait. Et puis sur l'arbre généalogique aussi, d'aller poser des questions sur la vérité dans ma famille, sur l'histoire familiale, les morts sur lesquelles on n'avait pas trop d'infos et sur lesquelles moi je sentais qu'il y avait des zones d'ombre encore qui étaient encore très profondes. Je dirais que la partie chamanique est venue ouvrir la voie à on peut peut-être pas avoir toutes les réponses. Les fameuses preuves tangibles. Tu vois, le journaliste, il est proche du flic, en fait. Il y a presque de ça. Il mène l'enquête. Il y a un peu de ça. Il vient chercher une preuve rationnelle, palpable, tangible. Et le chaman, il ne sait pas pourquoi. Parfois, il a une intime conviction. Il est poussé par... il entend une voix intérieure. Il peut se mettre à l'écoute de cette voix intérieure et elle n'est pas matérialisée, il ne peut pas l'enregistrer. C'est peut-être pour ça que j'ai tendu des micros à droite à gauche, parce que je n'arrivais pas à enregistrer cette voix intérieure-là. C'est bien celle-là que j'aurais aimé enregistrer. Mais le chamanisme, la porte du chamanisme s'est ouverte pour moi au moment où j'avais plus de raisons rationnelles que je trouvais dans ma vie matérielle, en fait. Et que j'avais fait le tour des endroits où j'étais consciente et où j'ouvrais la porte à ce bas de l'iceberg qui est vraiment tout l'inconscient, avec donc des zones plus sombres de traumatismes qui m'appartenaient et puis des zones totalement transgénérationnelles, donc avec des traumas qui appartenaient à ma mère, ma grand-mère, mes aïeux, mes arbres, mes ancêtres.
On arrive à la question insensée. Cette question a pour objectif de faire une belle transition vers les questions fixes de la fin. Et ma question insensée du jour, c'est peux-tu me noter de 0 à 10 la présence de ton enfant intérieur pendant cette conversation ? 0, pas présent du tout. Et 10, il a répondu à toutes les questions.
Je dirais... Alors, l'enfant intérieur... Alors là, c'était l'enfant un peu... moi, j'ai plein d'enfants intérieurs. J'ai une petite fille poétesse, j'ai une petite fille qui saute dans les flaques, j'ai celle qui fait de la corde à sauter, celle qui fait l'élastique, celle qui a les doigts pleins de peinture et qui fait exprès d'en avoir plein partout. Je dirais que mon enfant intérieur, qui a été reconnu à plein d'endroits, il est à 8 sur 10, là.
Ouais. Ok.
Ouais, 8 Très sur bien. 10, parce qu'il est proche de... Il est de plus en plus copain avec son adulte intégré, donc l'enfant intérieur, là, il est bien.
Super. Anne, est-ce que tout ce que tu fais aujourd'hui fait sens pour toi ?
C'est de la discussion que j'avais eue avec cette amie qui me demandait est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais qui n'est pas pour faire quelque chose justement qui a du sens ? Je crois que oui. Je crois que oui. Ça peut être un travers, hein, j'en ai bien conscience. Mais j'ai du mal à me poser dans un endroit ou à me dire ces vacances-là, ça va être que vacances. Très vite, je vais me dire j'ai envie de faire un carnet d'aquarelle, je vais dessiner ça. Très vite, je vais avoir envie d'aller ramasser des coquillages sur la plage et je vais me mettre à faire un mandala. Et donc, tout de suite, ça va être un moment de spiritualité. Mais parce qu'en fait, c'est profondément qui je suis, je crois.
Chaque action peut avoir une vibration. Et...
Ouais. Ça n'empêche pas d'être OK pour faire la fête, boire des apéros et c'est OK aussi et se marrer et rigoler sur le dernier tube à la mode. Mais quand même, avec les choix que j'ai faits, moi j'aime bien cette phrase qui dit que je suis la somme des résultats des choix que j'ai faits. Et j'ai fait des choix qui ne sont pas simples, tu vois, à un endroit, sur des pans de ma vie. Et donc, de plus en plus, il y a quelque chose qui... j'ai pas envie de faire marche arrière. Donc, tu vois, c'est vraiment assumer pleinement, en fait. Il y a une partie de moi qui se dit, j'ai pas fait tout ça pour ça. J'ai pas fait tout ça pour revenir à un truc un peu mièvre, moyen, faute de mieux. C'est pas possible, en fait.
Qu'est-ce que tu veux vraiment ?
Ce que je veux vraiment, c'est dire au monde qu'il est possible de choisir sa vie. C'est dire au monde qu'il est possible de faire alliance avec son enfant intérieur. C'est dire au monde qu'on peut s'exprimer de quelque manière que ce soit, vraiment. Par une marelle dessinée à la craie sur un trottoir, dans un clafoutis aux pommes carbonisé, dans un Scooby-Doo retrouvé dans un placard à cadeaux, un moment d'applaudissement à la fenêtre à 20h, que tout est expression de soi, dans un mouvement libre, dans une danse. Moi, je regarde toujours avec fascination, de temps en temps, sur les quais de métro. Je sais pas si tu en as déjà vu comme ça, des danseurs ou des gens qui sont vraiment dans le mouvement, qui n'en ont rien à faire du qu'en dira-t-on et qui écoutent leur musique dans leurs écouteurs et qui se fichent de voir que les gens les regardent et qui dansent sur le quai de métro en attendant le métro.
Ils ont bien raison.
Ouais, et ça, c'est magnifique parce que c'est vraiment, c'est pour eux, leur expression, elle passe par le corps. Et donc, ils disent au monde qui ils sont de cette manière-là, tu vois. Et moi, j'adore l'idée que je puisse dire au monde qui je suis en discutant avec toi là, que je puisse dans 5 minutes dire au monde qui je suis en reprenant l'une de mes histoires pour enfants sur lesquelles je travaille, que je puisse dire au monde dans le gâteau au chocolat que je vais faire tout à l'heure et dont je vais descendre une part à ma voisine, lui dire qui je suis de cette manière-là. c'est vraiment l'expression de soi. L'expression de soi, c'est vraiment ça. Il y avait cette phrase qui disait « Ne mourrez pas avec votre histoire à l'intérieur de vous ». Ouais, c'est ça. Saisissez, peu importe le biais, le compte Instagram, le dessin, le graffiti, le petit mot laissé sur un pare-brise, peu importe. Dites au monde qui vous êtes.
Qu'est-ce qui est sacré à tes yeux ?
La médecine de la parole. Vraiment, vraiment, vraiment. D'autant plus dans ces temps-là, j'ai la chance et l'honneur d'animer des cercles de femmes, des cercles de parole. J'ai la chance et l'honneur d'avoir eu de magnifiques guérisons dans ces espaces-là pour moi et d'avoir assisté à de magnifiques guérisons pour des femmes, de paroles qui se déposaient, à quel point quand je parle, quand je cherche mes mots, quand je sais que ce que je dis va être entendu, ne va pas être contré, argumenté, débattu, justifié, on va pas rebondir dessus, mais que je peux dire exactement ce que je veux. C'est tellement précieux aujourd'hui dans ces espaces de réseaux sociaux, et je mets de méga guillemets autour de ces mots-là, sur lesquels le débat est permanent, sur lesquels, dans ces émissions de télé dans lesquelles tout le monde se hurle dessus, dans ces tables familiales autour desquelles tout le monde se hurle dessus. C'est rare des espaces où on peut se déposer pleinement dans ce que l'on est. La médecine de la parole, c'est vraiment... c'est une magnifique médecine. Magnifique médecine.
As-tu à présent un motto ou une phrase inspirante, un genre de mantra qui t'aide à te lever le matin ?
Alors, j'aime beaucoup, alors c'est de l'anglais, hein, mais c'est « Be a voice, not an echo ». Donc, soyez une voix et pas un écho. Et récemment, j'en ai trouvé un autre qui est proche de ça, parce que moi, ça tourne toujours beaucoup autour de ça, comme tu l'entends, c'est toujours beaucoup autour de l'expression et des mots. Et j'ai lu récemment « Raise your words, not your voice », que je trouve très intéressant aussi. Que je trouve très intéressant dans le combat féministe aussi. Pour justement éviter que ce soit combat, et toujours d'être dans le lutter contre, etc., mais d'aller, de changer peut-être la manière dont on parle,
mesurer. J'entends le poids des mots, moi, là-dedans.
Oui. Le choix des mots aussi, le choix des mots.
Oui.
Le choix des mots, le choix... le choix des mots. Je suis heureuse aujourd'hui d'avoir mon hashtag « Merci à un inconnu » et d'avoir eu à un moment donné un hashtag « Je suis une victime » et aujourd'hui d'être passée à « Merci à un inconnu ».
As-tu une personne inspirante ou un mentor ?
Alors, bien sûr, moi j'en ai plein. J'aime particulièrement J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, et je n'ai lu aucun Harry Potter, je dois le dire. J'ai dû voir le numéro 3, je pense, au cinéma en accompagnant le frère d'un ami. Voilà.
D'accord.
Mais j'aime passionnément cette femme pour ce qu'elle est, pour son histoire évidemment inspirante de cette femme qui écrivait, qui s'est fait retoquer toutes ces histoires de sorciers, de jeunes sorciers, et qui écrivait en robe de chambre dans un vieux pub poussiéreux, son histoire, et qui rêvait que d'une chose, c'est qu'un éditeur vienne lui dire « Hey, ne lâche jamais ce que tu fais, continue ». Ouais, j'aime vraiment beaucoup cette femme. Et j'aime beaucoup aussi Rupi Kaur, qui est cette jeune poétesse new-yorkaise d'origine indienne, qui... donc Rupi, ça s'écrit R-U-P-I, plus loin Kaur, K-A-U-R. Et elle manie aussi, moi elle m'inspire beaucoup là-dessus, parce que moi je fais beaucoup d'encre bleue, donc j'aime beaucoup l'illustration à l'encre bleu Klein, qui est ma couleur préférée. Et j'aime beaucoup écrire de jolis, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment aussi, un joli texte avec une belle illustration bleue. Et elle a fait tout un recueil de poèmes courts, c'est presque des haïkus d'ailleurs, avec des petits dessins à l'encre noire. Et en fait, elle avait envoyé ses textes et ses illustrations à beaucoup d'éditeurs qui n'en avaient pas voulu. Et puis finalement, elle avait fini par s'auto-éditer. Et tout le monde lui avait dit « Mais t'es folle, tu te tires une balle dans le pied !» Et elle avait répondu « Bah, en fait, je me tire aucune balle dans le pied. Les portes sont fermées partout, donc moi, j'en ouvre une. » Et aujourd'hui, elle a, je sais pas combien, 3 millions de followers. Elle est invitée chez Oprah Winfrey. Elle est partout, elle remplit des salles et... voilà, c'est quelqu'un que...
Elle a eu raison d'écouter sa voix intérieure.
Que j'admire beaucoup. Je vous invite à aller écouter son TEDx aussi, qui est magnifique, qui est dans son flow, dans une sorte de slam poétique, là, qui est vraiment magnifique.
J'ajouterai le lien en description de l'épisode. As-tu un conseil pour quelqu'un qui cherche à aligner ce qu'il fait et ce qu'il est ?
Alors moi, j'aime bien me poser les questions dès que j'ai une idée qui me traverse, ou même dès qu'on me propose quelque chose, un projet. Ça peut même être aussi des choses, parfois, tout n'est pas qu'artistique ou forcément vertueux. Hein. Ça peut être aussi parfois, Anne, est-ce que tu veux bien nous aider à faire cette vidéo corporate ? Moi, comme je suis beaucoup, voilà, comme j'ai 20 ans de journalisme ou que je suis beaucoup dans les mots, on vient me chercher pour du media training aussi, pour aider des gens à parler, à prendre la parole, pour... donner des idées, pour trouver, pour animer des événements. Mais à chaque fois, je me pose les questions, c'est est-ce que, en choisissant de dire oui à ce projet-là, est-ce que je suis mon cœur ? Donc ça peut être, même si le projet n'est pas hyper sympa, mais que c'est quand même bien payé, que ça va me permettre de me garder du temps de créativité et de création derrière, bah, ça peut valoir le coup. Je me demande à chaque fois si ce projet vient soutenir la vie que je suis en train de me construire. Ouais, est-ce que ça vient vraiment... est-ce que ça rentre dans les cases un peu ? Et puis, est-ce que c'est me montrer vrai à qui je suis, tu vois, me respecter ? Est-ce que c'est me respecter que de dire oui à ce projet-là ? Ou est-ce que ça vient empiéter sur quelque chose à moi ? Je viens toujours me demander ça, en fait. À chaque fois. À chaque fois... est-ce que c'est juste d'aller dépenser beaucoup d'argent pour cette formation-là alors que moi-même, j'arrive pas à me payer sur ce truc-là ? Est-ce que c'est juste d'aller dépenser tout cet argent-là pour aller au mariage de cet ami que j'ai pas vu depuis très longtemps et alors que moi, en ce moment, c'est chaud financièrement et que je rêve d'avoir du temps pour... Tu vois, vraiment d'aller regarder à quel endroit, plutôt que de faire des choix par défaut. Et ensuite, de les faire payer, d'être mal et de ne pas être bien, c'est vraiment toujours... Donc, ça peut être vraiment quelque chose de professionnel, comme de cette invitation qu'on me propose. Tiens, comment je me sens ? On me propose ce truc-là, comment je me sens ? Le petit gut feeling, un peu, là, que je viens un peu questionner. Tiens, c'est bizarre, je ne me sens pas très bien après qu'on m'ait proposé ce job. Il y a eu plein de fois comme ça où c'est venu quand même me tirer la sonnette d'alarme intérieurement. Sur des propositions de boulot, sur regarder ce que la vie me montre aussi autour. Je me suis cassé un talon juste avant d'aller passer un entretien d'un job vraiment que je ne voulais absolument pas avoir, où dès que le type me rappelait, j'avais mal au ventre. Bon, et je faisais exprès de faire monter les enchères, même financièrement, pour voir jusqu'où il pouvait aller, et en espérant qu'il me dise non, parce qu'en fait, il y avait une partie de moi qui n'était pas du tout d'accord pour aller faire ce job-là, en fait, qui était en train de se suicider au sens symbolique du terme, hein, mais d'aller vers vraiment une petite mort intérieure, une petite mort artistique, une petite mort de l'âme.
Questionner l'âme un petit peu avant d'y aller ou pas. As-tu deux vérités et un mensonge à nous partager ? Ne nous dis pas lequel est lequel.
J'ai échappé à une agression sexuelle en jouant à la crapette. J'ai rencontré les terroristes du Bataclan la veille des attentats. Et j'ai découvert un pantone de couleur. D'une couleur.
Waouh. Merci.
Débrouillez-vous avec ça.
J'ai très envie de spéculer. Je vais te prêter virtuellement cette période de confinement Ashanti, qui est une poupée en bois jaune. Tu peux la découvrir sur le compte Instagram Insensé. Je viens de lui faire une jolie story à la une qui la présente. C'est une poupée qui vient du Ghana. Elle est symbole de fertilité là-bas, donc les femmes la portent dans leur dos jusqu'à l'heureux événement. Et je me la suis un petit peu appropriée sur le podcast Insensé. Ici, c'est un peu la baguette magique. Et elle est symbole de fertilité des bonnes idées, celles qui ont du sens. Je la prête à chaque invité pour qu'il puisse faire un vœu, pour que le monde fasse plus de sens. Quel serait ton vœu, Anne ?
Moi, mon vœu, ce serait que chacun aille s'alléger du sac à dos émotionnel, transgénérationnel pour les générations futures, en fait. Ce serait vraiment que chacun prenne la responsabilité de sa vie et regarde en face sa propre histoire pour aller alléger les sacs à dos déjà beaucoup trop lourds des jeunes générations et des générations futures. Et donc vraiment, je redirais ce que je dis dans la conférence TED, c'est un adulte qui travaille sur lui, c'est un adulte qui soulage ses enfants, ses petits-enfants et tous ceux qui viendront à te suivre. Je rêve de ça. Je rêve de ça. Et je crois vraiment que ça solutionnerait tellement de choses. De prendre la responsabilité de sa vie et donc de prendre la responsabilité de ce que je fais à la planète, de ce que je fais autour de moi, de ce à quoi je sers dans ma vie, de ce à quoi je mets mon énergie au service d'eux. Et donc de quel métier je choisis de faire, dans quel bois je choisis de travailler. Donc vraiment de prendre la responsabilité de sa vie pleinement.
Mmh. Merci. Merci, j'espère que Ashanti contribuera à réaliser ce vœu. On va clôturer cette interview. Juste avant de clôturer, je voudrais te demander si tu as une personne en tête qui aligne ce qu'elle est avec ce en quoi elle croit, qui mériterait de passer sur le podcast Insensé, une personnalité inspirante.
Sophie Amiac-Moret. Sophie Amiac-Moret, c'est une femme médecine qui a ouvert un magnifique lieu de ressourcement et de développement personnel qui s'appelle Au cœur du domaine dans le 77. Et c'est quelqu'un qui a fait un magnifique virage de vie et qui aligne pleinement qui elle est avec ce qu'elle propose.
C'est tout à fait aligné avec mon projet de vie qui consiste à ouvrir un lieu de vie également.
Ah bah voilà, tu vois, j'étais là pour te mettre sur ton chemin.
On est en plein dans le mille. Anne, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ?
Des millions de lecteurs à travers le monde traduits dans des dizaines et des dizaines de langues et des récits conscients qui me traversent et que je peux livrer au monde, qui ne m'appartiennent pas bien sûr, hein, mais voilà, où je peux ouvrir mon entonnoir bien grand pour me laisser traverser par ces histoires-là et les offrir au plus grand nombre.
Superbe, c'est ce que je te souhaite. Un immense merci pour ton partage.
À bientôt, merci à tous.
Je vous remercie chaleureusement pour votre écoute. Les épisodes évoluent avec vos retours et commentaires ainsi que votre soutien. Si cet épisode vous a plu, la meilleure manière de soutenir le podcast Insensé, laissez 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Je me réjouis de les mettre en lumière en début d'épisode. Vous pouvez aussi suivre la page Instagram @insensé_ et partager sans compter. Car quand on aime, on ne compte pas. Ashanti et moi, on vous remercie d'avance. N'oubliez pas d'aller regarder tous les liens utiles et sensés disponibles dans la description de l'épisode sur votre app d'écoute favorite. À dans 2 semaines. Comprenez bien le sens. Qu'il soit propre, sale ou figuré. Sans aller dans mon sens. Non, ne me brossez pas dans le sens du poil. faites appel à vos cinq sens, mettez-vous sans dessus dessous, car non, ce n'est pas à sens unique, mais bien à double sens.
Waouh !
Je crois que ce surmenage nous guette tous.
Ah ben alors ?
La vie moderne étant ce qu'elle est.
Vous bossez, vous bossez, vous bossez, vous bossez.
What's your purpose ? What's your cause ? What's your belief ?
C'est du bon pain.
Craquer au bureau.
Bolche !
Réfléchissez. La vie a-t-elle un sens ?
Qui suis-je ? Il est complètement fou ce mec !